Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une fois de plus, je vous transporte aux États-Unis pour Terre Promise, premier roman d'une jeune autrice, Bénédicte Dupré-Latour, aux petites éditions du Penseur, Penseur Panseur, car il est question ici de soigner l'esprit par de belles lectures. Alors donc aux États-Unis, la période n'est pas nommée, mais on devine aisément que le roman se passe fin 19e, à peu près au moment de la guerre de sécession. Et en fait, ce n'est pas tant un roman qu'une succession de portraits de sept personnes. Donc, il y a à la fois une prostituée qui travaille dans un saloon, une jeune femme autochtone qui s'occupe de son fils alors même que son mari est mort, un maréchal ferrant qui est gagné par la fièvre de l'or, une mère qui cherche son fils justement sur les champs de bataille de la guerre de sécession, un jeune loup solitaire autochtone qui vit donc un peu à l'écart de sa communauté, une veuve fermière et un ancien prédicateur devenu marchand ambulant. Et tous ces récits sont ponctués de lettres qu'un jeune homme qui est condamné à la pendaison écrit à ses proches. Donc, c'est autant de portraits, autant de visions de la conquête de l'Ouest. On est quand on lit, enfin quand on lit un peu les différentes personnes, on a l'impression qu'on reprend un peu cette mythologie-là, cette mythologie de la construction de l'Amérique. Mais en fait, tout est pour le coup déconstruit par la noirceur et l'âpreté de l'écriture, puisque dans ce récit, il est surtout question de personnes qui sont gagnées par la folie, le désir de vengeance, la violence. On est très très loin de l'univers de la petite maison dans la prairie, mais je pense beaucoup plus proche de la réalité, de la vérité de l'histoire de ce pays qui s'est avant tout construit dans la violence. Donc, il faut vraiment souligner l'écriture sublime de l'autrice, d'autant plus qu'il s'agit d'un premier roman. Mais pour ce roman très noir, très âpre, il faut avoir le cœur bien accroché.
Oui, ben bonjour tout le monde. Merci pour cette petite critique de ce livre. Ça donne envie de le lire, enfin pour ma part. Et donc tu parles d'écriture sublime, c'est quand même pas rien. Est-ce que tu peux développer un peu sur le sujet?
Oui, en fait, j'ai vraiment été très surprise par le style qui est très beau, sans rentrer forcément dans la rhétorique. Mais ce que j'ai déjà dit, d'autant plus surprenant que c'est un premier roman. Mais on est vraiment porté par à la fois une écriture qui ressemble un peu au paysage, enfin, assez grandiose, et en même temps qui sait très bien retranscrire. Qui sait très bien transcrire la folie et la noirceur, en fait.
Ok, bah je j'explique ma question. C'est parce qu'en fait, je crois que deux personnes m'en ont parlé en me disant que que l'écriture aussi était violente, voire pas vulgaire, mais peut-être enfin un peu trash pour certains, il me semble. Et donc moi, je l'avais entrepris, mais j'avais d'autres livres en cours, donc je n'ai pas continué. Mais du coup, bah, tu me donnes vraiment envie
Ok.
de le lire, franchement.
Alors, je dirais que ce n'est pas tant l'écriture qui est trash que les situations qui peuvent l'être. Je peux donner un exemple sans rentrer dans les détails pour ceux qui vont lire le livre. À un moment, il y a un convoi de jeunes de fermiers, d'agriculteurs qui décident en fait de quitter leur terre qui est un peu hostile, qui n'est pas très productive, pour gagner d'autres terres de l'autre côté de la montagne, puisque des personnes de passage leur ont dit de l'autre côté de la montagne, l'herbe est plus verte, l'herbe est forcément plus verte ailleurs. Et donc, ils vont monter un convoi tel qu'on se l'imagine, avec des chariots, avec des arceaux, enfin voilà. Ils sont comme ça, je ne sais plus, une dizaine de familles. Et en fait, sauf qu'il faut passer la montagne, et arriver à la montagne, l'hiver arrive plus tôt que prévu. Et donc, ce convoi va être immobilisé. Et voilà, il va arriver beaucoup de malheurs et effectivement des choses qu'on peut qualifier de trash dans cette immobilisation.
Donc tu nous laisses le suspense pour lire par exemple cette scène.
Oui.
On peut dire ce qu'on veut et du coup ça donne encore plus envie de lire le livre.
Voilà.
Comment on traduit la folie en fait? Comment on raconte ça? Voilà, je serais curieuse d'entendre un extrait de ce livre.
Oui, eh bien ça va venir. Alors peut-être sans traduire la folie, je peux traduire un peu le découragement et une certaine amertume, puisque je peux vous lire la toute première page, qui est le premier portrait, qui est celui d'Eleanor Dwight, qui est donc cette prostituée qui travaille dans un saloon. Et cela peut vous donner un peu une idée du ton de l'ouvrage. C'était jour de paye pour les vachers des plaines. Au bord du lit, Eleanor Dwight remontait son bas le long d'une jambe brune. La chambre sentait encore le mauvais tabac que l'homme de la veille n'avait pas cessé de chiquer. Il n'avait pas cessé, hormis pour cracher un jet noir dans le bassin, avant de se vider plus bas, les yeux écarquillés de stupeur. Éléanore en avait trop vu pour se souvenir des visages. Tous venaient avec cette même odeur pestilentielle, cette nostalgie du refuge maternel. Ils souillaient tout ce qu'ils touchaient. Et s'ils avaient pu croiser son regard lorsqu'il faisait en elle, ils se seraient recroquevillés comme des feuilles sous le soleil du désert, consumées par la lumière de la vérité. Mais toujours, elle fermait les yeux, l'immense mépris enclos sous ses paupières. C'était jour de paye pour les vachers des plaines. C'était jour de peine pour les filles de joie. Il s'agit donc de Terre promise de Bénédicte Dupré-Latour aux éditions du Penseur.
Radio Campus, bon.
Alors, il y a des émissions philo, mais à mon avis, c'est insuffisant et c'est surtout France Culture.
99.5.
Alors, est-ce qu'on pourrait titrer un article ou un livre Psychiatrie biologique, virgule, défaite de l'hystérie, point d'interrogation.
Donc là, vous faites référence à Charcot.
Par exemple.
Voilà. Disons que ce serait un petit peu radical. Charcot peut être inscrit dans le courant de la psychiatrie biologique.
Et sur notre site, radiocampustour.com.
Auditeurs, auditrices, bonjour. Il est 11h passé de 6 minutes sur Radio Campus Tour, c'est la Méridienne et vous aurez sûrement reconnu les voix de nos médiathécaires préférés du réseau des bibliothèques municipales de la ville de Tours qui vous présentaient un nouvel ouvrage à emprunter, évidemment dans le réseau des bibliothèques municipales. Rappelez-vous aussi que vous pouvez vous faire livrer ces ouvrages dans votre bibliothèque s'ils sont à l'autre bout de la ville. Et pour annoncer le sujet de l'émission d'aujourd'hui, le jeu, tandis que s'ouvre la porte du studio et qu'arrive notre quatrième invité. Car oui, aujourd'hui, pour parler de jeu, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir quatre invités autour des micros. Nous allons parler de la 8e édition des Salons de Choiseul, dont le thème, vous l'aurez compris, c'est le jeu. Donc les Salons de Choiseul, c'est le jeudi 20, le vendredi 21 2025 au lycée Choiseul. Il y aura aussi une conférence inaugurale le 19 à la mairie de Tours. Alors pour tout savoir de cet événement qui se tient bien dans un lycée, eh bien j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Collin. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes co-organisatrice des Salons de Choiseul et en face de vous, votre binôme du tonnerre, c'est Monsieur Gagnepain. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire géo en section binationale ESABAC et président des Salons de Choiseul. La section ESABAC, c'est l'ancienne section européenne, c'est ça?
Alors pas tout à fait, en fait c'est un BABAC binational en italien, comme il en existe à Paul Louis Courier aussi, ou donc en allemand et en espagnol.
Voilà, c'est comme le Habibac par exemple.
C'est ça, exactement.
Et vous êtes venu aussi avec deux personnes qui proposeront des conférences. Alors bonjour Juliette Garcin.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'anglais au lycée Choiseul et vous proposerez une conférence sur métal et jeux vidéo, où sont les femmes?
Tout à fait.
Et enfin Jérôme Boissel, bonjour.
Bonjour à vous et désolé pour le retard.
Ah ça arrive, mais voilà une voix que nos auditeurs ont déjà entendue dans une autre émission, La Méridienne. Je rappelle tout de même que vous êtes docteur en sciences de gestion, spécialité marketing. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ESC Clermont Business School, co-responsable de la filière Passion Sport. Et vous ferez une conférence sur deux points. En marketing, le jeu, c'est du sérieux. C'est bien ça?
C'est ça, ouais, j'ai gardé le mystère.
Voilà, vous avez gardé le mystère. Bon, pour que nos auditeurs comprennent bien en quoi consiste cet événement, voulez-vous nous rappeler ce que c'est?
Alors bon, je vais commencer moi, et puis Béatrice donc les autres intervenants, bien entendu, vous pouvez compléter. Donc il s'agit d'une série de conférences. En fait, c'est même, on peut dire, un événement unique en France, en réalité, puisque je pense qu'à ma connaissance, on est le seul lycée en France à organiser ça. Donc pendant 2 jours, une cinquantaine de conférences, on est un peu plus de 50. Et pour le thème du jeu, cette année, en plus, une nouveauté, des ateliers qui sont ouverts partiellement au public. Donc on invite évidemment les auditeurs à s'inscrire nombreux à ces conférences avec des thèmes extrêmement variés qu'on va sans doute développer sur l'histoire, l'économie, comme on a vu, économie marketing avec Jérôme Boissel ici présent. Ensuite, l'économie, la socio, la philo, que sais-je encore, plein d'autres choses. Et puis de la littérature, le monde de la recherche aussi étroitement associé. Donc voilà.
Et les ludothèques.
Et les ludothèques, bien entendu.
Très présentes, oui.
Est-ce qu'on peut rappeler combien de conférences en tout sur ces 2 jours ?
Alors, 54 conférences exactement, ouvertes au grand public gratuitement sur billetterie, qui sont sur nos réseaux et sur le site internet du lycée Choiseul, mais aussi des salons de Choiseul. 54 conférences et 8 ateliers.
Voilà, donc 54 conférences, en effet, c'est un événement d'envergure qui est proposé là. Donc, des conférences qui sont vraiment pensées pour être tout public.
Alors, tout public, oui. Bon, l'idée des salons de Choiseul, c'est faire comme les salons des Lumières, c'est-à-dire mettre en contact le public et la recherche. Donc, faire venir des chercheurs, mis en contact avec des élèves, puisqu'on est au sein d'un établissement scolaire, et je le précise, les cours ne sont pas suspendus. Les élèves peuvent avoir une autorisation personnelle d'y aller, ou ils vont avec leur professeur. Et aussi l'ouverture du grand public, ce qui permet la rencontre des générations. Et donc, on a des cheveux blancs ou têtes blondes qui peuvent venir assister à ces conférences.
Et on a aussi des professionnels, en fait, pas que des chercheurs. Il va y avoir aussi des intervenants en ludothèque. On en a pas mal, 3-4 au moins, qui sont plus des professionnels et bon, qui ont évidemment des titres universitaires, mais pas des chercheurs.
Et aussi des créateurs de jeux. On a des créateurs de jeux qui viennent, par exemple, au Sortilège. Ouais. Ou aussi Ori Games avec Simon Gervasi qui est un créateur de cette société en région parisienne.
Et il y a aussi le monsieur Feduti qui a créé le jeu Citadel qui a vendu à plusieurs exemplaires, je crois que c'est 500 000 mais oui. Je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça. Donc il est très très connu.
Donc des élèves qui ne sont pas obligés d'aller aux conférences, mais alors du coup s'il y a pas de contrainte, est-ce qu'ils y vont tout seuls?
Alors nous, on fait en sorte de les informer déjà et de leur faire passer le message. Il y a un affichage déjà assez visible au lycée pour les inciter à y aller. Et puis après, je pense que le relais est pris par tous les enseignants, le monde éducatif d'une manière générale au lycée pour qu'ils soient incités à y aller, effectivement.
On compte beaucoup quand même sur les classes et les enseignants pour les emmener, en fait.
Et puis on a nos BTS GPME aussi, donc il y a un des 4 BTS qui accompagnent aussi et qui peuvent faire le relais. Ils ouvrent les salons, ils accueillent les conférenciers, ils présentent les conférenciers aussi.
Oui, ils ont un rôle très important en termes d'organisation, en fait.
Extrêmement important, et on remercie là nos deux enseignants, Christophe Angelopoulos et Adeline Buton, de les encadrer aussi brillamment, puisqu'on voit leur travail, et bravo.
Et puis aussi à eux, parce que bon, c'est vrai qu'il y a 2 ans, ils avaient fait un très très bon travail et ils avaient beaucoup apprécié d'ailleurs la rencontre avec les intervenants, avec le public, ça s'était vraiment très très bien passé.
Donc en fait ce que vous dites c'est que finalement ces élèves, s'il n'y a pas quelqu'un qui les incite un peu, il y a peu de chances qu'ils y aillent tout seuls quand même, et surtout l'idée qu'il y ait des BTS qui soient chargés de l'accueil, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi disons que si c'est des pères, parce qu'ils ont à peu près le même âge, donc en fait c'est de dire voilà, si c'est des plus jeunes qui leur disent ah, viens, c'est super, ça marche mieux.
Oui, je pense. Alors, pour les BTS, nous, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'en fait, c'est une application d'un ensemble de cours qu'ils peuvent avoir, puisqu'ils sont en gestion de la PME. Et donc, on étudie tout ce qui peut être organisationnel, planification, accueil, etc. Donc, c'est vraiment de la mise en application de cours. Hein. Et donc, c'est très, très vivant. Et ça, c'est vraiment, ça leur apporte beaucoup, notamment dans l'accueil du public. Pour la communication auprès des autres élèves,
Alors, la communication auprès des élèves, ça marche aussi, mais il faut qu'il y ait une certaine habitude. En fait, ils ont besoin. En fait, un événement chasse l'autre. Donc là, ils étaient sur d'autres aspects. Ils ont aussi leur propre calendrier d'élèves. Donc c'est à nous et on fait tout en mesure, disons, on met le maximum de choses en place pour qu'ils aient une information sur ce que sont les choiseuls, ce qu'ils peuvent y trouver comme intérêt. Par exemple, il y a pas mal de conférences sur l'histoire et la géopolitique. Donc ceux qui sont en spécialité histoire et géopolitique, évidemment, les enseignants sont là aussi pour leur faire le relais en disant « Allez les voir, même si le professeur ne peut pas vous y emmener, allez voir cette conférence-là, ça peut être pertinent à votre programme. » Pareil pour l'économie, par exemple sur les jeux télévisés, etc. etc. ou les mathématiques, puisqu'il y a deux professeurs, deux enseignants, un à l'INSPE, Vincent Beck, et un autre, un professeur de mathématiques dans la région parisienne, qui viendra leur faire une présentation du jeu et des maths, ce qu'on peut faire autour des maths et des jeux. Donc on essaie de faire aussi, toujours très pluridisciplinaire pour essayer d'intégrer le plus possible et être dans cet esprit, on va dire entre guillemets, humaniste.
Là, je me tourne vers vous, Juliette Garcin, puisqu'on a la chance d'avoir aussi une professeure d'anglais dans cette émission. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, par exemple, à vos élèves sur ces conférences? Comment vous leur en parlez?
Premièrement, je leur ai demandé s'il y avait des élèves qui étaient déjà allés à des conférences tout court. Et j'ai incité particulièrement les personnes qui n'y étaient jamais allées à aller à une conférence gratuite, il faut le souligner. C'est une opportunité pour eux dans leur vie de faire une nouvelle expérience, d'aller voir quelque chose qu'ils ne sont jamais allés voir. Et voilà, quand j'ai annoncé à mes élèves, je m'entends assez bien avec mes élèves, et quand je leur ai annoncé que je serais moi-même conférencière, la lumière s'est allumée dans leurs yeux, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc voilà, ça les incite à venir également.
Ça peut être tout à fait un biais aussi pour les intéressés, de dire « Ah, voilà, vos professeurs feront une conférence et peut-être sur des sujets sur lesquels ils ne les attendent pas. »
Tout à fait.
Donc là, ils vont découvrir que vous êtes fan de métal.
Voilà, pour le coup, j'ai des élèves qui sont tout de suite venus me voir à la fin du cours pour me dire « Madame, vous écoutez quel groupe ?» Voilà, donc c'est une façon d'apprendre à connaître aussi ses professeurs pour eux.
Qu'est-ce que vous en pensez, organisateur au pluriel, de cette idée que ça permet de découvrir aussi d'autres facettes des enseignants?
Alors, moi, je trouve ça génial parce que, en fait, moi-même, j'ai été intervenant et donc, avant d'être organisateur, puisqu'il faut le rappeler, les Salons de Choiseul n'ont pas été créés par nous, c'est la 8e édition et c'est Stéphane Genet qui commence à être quand même bien connu sur l'agglomération et même au-delà, qui a créé les Salons de Choiseul. Stéphane Genet, c'est aussi le créateur d'un célèbre podcast sur l'histoire. Moi, j'ai été intervenant avant d'être organisateur. Et franchement, j'ai eu la même expérience que toi, Juliette, c'est-à-dire annoncer aux élèves « Ah, mais je vais être conférencier. Ah oui, vous êtes... Et sur quoi ?» etc. Et donc, c'est aussi à nous, effectivement, nous, en tant qu'organisateurs, mais aussi professeurs, puisque moi, je suis professeur d'histoire, je n'interviens pas pour des raisons totalement pratiques, c'est-à-dire que je n'ai pas le temps, en fait, de préparer des conférences. Mais en réalité, oui, ça les incite, le fait d'avoir leurs enseignants du lycée. On a quand même quelques enseignants du lycée, on en a 4 de mémoire, qui interviennent sur cette édition. Donc ouais, c'est plutôt favorable. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Béatrice.
Oui, c'est vrai que ça permet de les découvrir autrement. Alors en général, les élèves aiment bien découvrir leurs enseignants sur un autre volet que leur enseignement. Donc c'est vrai. Bon, on a quelques collègues. Alors bon, il y en a un qui intervient en histoire, donc ils ne vont pas être surpris. Stéphane Genet.
Tiens. Bah oui, Stéphane Genet.
Voilà.
Sur l'espionnage.
Sur l'espionnage, voilà. Et puis j'ai un collègue sur le rétro gaming. Hein. Donc lui, effectivement, je ne suis pas sûre que les élèves sachent qu'il aime le rétro gaming.
Alors c'est un passionné de jeu, c'est un passionné de musique, mais effectivement, le rétro gaming, bon, qui est une discipline qui fait du revival avec les anciens jeux vidéo et les remet au goût du jour. Donc cette conférence qui a lieu le jeudi, c'est une manière pour eux de peut-être découvrir un aspect du professeur qu'ils ne connaissaient pas.
Et alors les publics autres que les élèves du lycée Choiseul, vous avez dit qu'ils venaient, de France et de Navarre, qui avaient quelques cheveux blancs. C'est plutôt quelles personnes qui viennent, des profs en retraite?
Alors, il y a des profs en retraite. Alors, il y a quand même une large partie, évidemment, du fait que en extérieur, les salons de Choiseul se déroulent, les conférences se déroulent la journée. Il faut du temps libre. Donc forcément, il y a pas mal de retraités. Mais il y a aussi des étudiants qui viennent. Et on invite d'ailleurs les étudiants qui écoutent peut-être Radio Campus à venir, puisqu'il y a de larges parties qui peuvent recouper leurs études, que ce soit en économie, en philo, en histoire, en sciences. Voilà, on peut, et puis dans tout ce qui est discipline de jeu aussi par goût personnel, s'ils ont du temps libre, n'hésitez pas à venir le jeudi 20 et le vendredi 21 mars entre 9h et 17h où vous serez, je dirais, pleinement satisfait.
On n'en doute pas que c'est satisfaisant et que les étudiants nous écoutent. Et alors justement, sur ces salons de Choiseul, il s'agit d'accueillir un public dans un établissement scolaire. Alors, ça veut dire que vous faites fi de tout ce qui est les règles de sécurité et compagnie, là, parce qu'il y a quand même plein de normes. On n'entre pas comme dans un moulin, dans un établissement scolaire. Donc,
Alors, pas du tout, en fait. On a des étudiants, enfin élèves, dans c'est un bac pro, sur donc justement tout ce qui va être surveillance, en fait. Je ne sais plus l'intitulé exact.
C'est à Chinon.
C'est à Chinon, à l'essai de Chinon. Hein. Et donc, ils seront là en tant que vigiles. Alors, bon, ils vont... Peut-être pas contrôler les sacs, mais ils peuvent demander à voir le sac.
De toute façon, pour accéder au lycée, effectivement, il faut pièces d'identité et billets qui sont disponibles gratuitement sur notre billetterie. Et les vigiles, effectivement, sont là à l'entrée pour contrôler la bonne entrée et le bon déroulement des salons. Il y a également des élèves qui accueillent là plus directement le public et les aiguillent dans les différents salons, puisque nous avons 4 salons, Pic, Cœur, Carreau et Trèfle cette année, qui ont été génialement trouvés par justement un des membres de notre organisation. Et finalement, ça a le mérite de la simplicité, de la simplicité, de la clarté.
On a l'impression que le lycée Choiseul est immense pour accueillir toutes ces conférences. Alors, comment vous avez fait pour réunir toutes ces salles? Est-ce que vous avez bouté certains cours hors de leur salle? Est-ce que vous avez mis des préfabriqués? Comment ça se passe?
Alors, pas du tout. On n'a mis aucun élève dehors. Alors, on a emprunté, là, c'est quand même les élèves. On a emprunté la MDL, la maison des lycéens. Donc, qui est quand même assez grande, puisqu'elle fait ça, elle a 110 places. Même un peu plus, oui, 120. Et puis, on a une salle qui est une salle de devoirs, qui peut être aussi pour des réunions, qui fait aussi une centaine de places. On a la salle
du théâtre,
c'est ça, salle polyvalente. Donc, celle-ci, donc, du coup, les élèves ne l'utilisent pas en journée, donc ça, ce n'est pas du tout un problème. Et puis, une salle dans le bâtiment E, qui est une salle qui est un peu moins utilisée pour les design de mode, la licence design de mode. Donc, non, on ne met pas les élèves dehors, si ce n'est qu'on leur emprunte la MDL sur 2 jours. Bon, je crois que ça va. S'en remettent.
Il n'y a pas eu de plainte à ce sujet?
Absolument pas. Non, je crois qu'ils sont contents. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Alors, je me tourne vers vous, Jérôme Boissel. Donc, ordinairement, vous intervenez dans une école de commerce, c'est ça?
Oui, tout à fait, Clermont School of Business.
Voilà. Alors, comment vous adaptez votre propos de conférencier à un public qui est peut-être plus varié sur ces salons de Choiseul?
J'ai l'habitude d'avoir une liberté de ton, donc de ce côté-là, je ne me fais pas trop de soucis, au contraire. Mais non, l'idée, c'est justement ce qui m'a plu, en fait, quand Adeline Buton, qui a été citée précédemment, m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait. Ce qui m'a interpellé, justement, c'est ces différents publics, ces différents segments, en fait, et justement de me mettre en danger également, d'avoir un public de 7 à 77 ans, comme on peut voir dans les jeux de société. Donc c'est ça qui est un peu challenger pour nous et qui, ça va changer un peu de la routine.
Alors, c'est de dire dans le propos, en fait, dans les idées que vous voulez transmettre dans cette conférence, comment vous adaptez? C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que ce soit moins intéressant, mais c'est peut-être la formulation. Comment vous faites?
On va essayer de vulgariser la recherche, tout simplement. Comme vous le savez, moi, je suis spécialisé en marketing du sport, donc déjà, il y a quelque chose qui peut parler à tout le monde. Et récemment, j'ai fait une étude sur des jeux de rôle, donc les TCG, les jeux de cartes à collectionner. Et en fait, je vais un petit peu parler de ma recherche en sport, le sport dérivant lui-même du jeu, en fait. Et je vais décliner, en fait, du marketing du sport jusqu'au marketing des jeux de société, des jeux de rôle, au travers du prisme de la valeur perçue, qui est, selon moi, le concept le plus important en marketing.
Alors là, mais je pense que parmi certains auditeurs, certains sont déjà perdus.
Justement, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent. Ouais.
Mais alors, justement, dans votre conférence, c'est-à-dire que vous allez montrer des choses, vous utilisez des supports pour que ce soit plus accessible?
Ouais, alors quand je vais parler de sport, il n'y aura pas forcément de support, hormis le PowerPoint ou le visuel que je vais projeter. Par contre, quand on va aborder les jeux de société, et plus particulièrement les jeux de cartes à collectionner, donc c'est-à-dire du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, etc., l'idée, ce sera peut-être de prendre quelqu'un à partie et de lui faire ouvrir un paquet, de lui faire la surprise des cartes qu'il va avoir en lui disant « celle-ci, elle vaut peut-être 500, 5000, 50 000 euros ». C'est un peu le but du jeu, c'est l'excitation qui peut se cacher derrière ces jeux-là. Et en fait, au-delà de ça, peut-être que le terme ou le concept de valeur perçue est un peu obscur pour certains, mais en fait, c'est qu'est-ce qui peut plaire, qu'est-ce qui peut intéresser l'usager dans sa consommation courante. En TCG, ben pour moi, c'est la nostalgie, l'appartenance à un groupe peut-être, et il y a beaucoup le rôle de l'esthétique des cartes, et c'est peut-être là-dessus que je vais accentuer les propos, puisque l'étude de cas que j'ai faite sur un jeu qui a disparu portait notamment sur le côté esthétique des cartes.
Voilà. En tous les cas, cette conférence est très demandée par nos élèves. On a beaucoup de classes qui se sont inscrites. Oui. Voilà.
Ok, pas de pression.
Voilà.
Je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission La Méridienne, où nous parlons de la 8e édition des Salons de Choiseul. Et on va écouter, Hot Butter Popcorn, version originale de 1972. Voici de retour dans La Méridienne sur Radio Campus Tours. Nous parlons de la 8e édition des Salons de Choiseul au lycée Choiseul. Le thème cette année, c'est le jeu et ça se tiendra les 20 et 21 mars au lycée. Alors, je me tourne vers vous, Juliette Garcin. Donc, vous êtes professeure d'anglais et vous proposerez une conférence métal et jeux vidéo. Où sont les femmes ? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs et auditrices pour introduire cette conférence, sans révéler tout le contenu, évidemment?
Je suis professeure d'anglais, mais je suis aussi chercheuse dans le métal. Je suis en doctorat en N-1 avec professeur Olivier Julien à la Sorbonne et professeur Guillaume Clément à Rennes. Donc c'est vraiment un milieu que je connais notamment parce que j'ai été chanteuse dans des groupes de métal pendant 15 ans. Pour ce qui est du féminisme, j'ai lu mon premier Virginie Despentes quand j'avais 14 ans. Et j'ai rencontré mon mari sur les jeux vidéo. Donc en fait, je suis vraiment quelqu'un qui fait partie de ces domaines-là. Et le matin, quand je me réveille, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la condition des femmes aujourd'hui. Vraiment, c'est une question qui me taraude tous les matins. C'est quelque chose que... Voilà, donc ma façon de faire, c'est au travers de la recherche. Donc déjà, venir à cette conférence simplement pour en savoir plus, comprendre les difficultés, les problèmes, les solutions en ce qui concerne la place des femmes dans les milieux masculins. C'est hyper important. Voilà, et pour ce qui est de la... comment je suis arrivée à ce sujet de recherche, en fait, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait de la recherche qui parlait du côté social similaire entre les métalleux et les joueurs de jeux vidéo. J'ai vu qu'il y avait de la recherche qui parlait du côté similaire d'un point de vue musical, c'est-à-dire que voilà, c'est, il y a une ubiquité du métal dans les jeux vidéo. Dès qu'on écoute des thèmes de bataille, même sur la NES, on transpose ça avec des instruments, ça devient du métal. Il y a des études sur les femmes dans ces milieux-là, mais on n'a jamais fait le rapprochement entre la situation des femmes dans ces deux milieux. Et du coup, dans cette conférence, ce que je voulais faire, c'était vraiment déjà exposer cette situation qui est similaire, et puis essayer d'interroger sur cette situation, quels sont les problèmes que les femmes rencontrent, où sont-elles déjà, parce que ce soit au niveau de la consommation ou de la production, on ne retrouve pas du tout les mêmes proportions de femmes. Dans la production, on retrouve en dessous de 15%, donc voilà, ça les tokenise, c'est-à-dire que ça fait d'elles des personnes qu'on voit, mais pourtant on ne comprend pas tellement leur situation. Et la place des femmes dans ces milieux, c'est une place qui n'est jamais donnée, c'est une place qui est prêtée, et pour laquelle elles doivent se battre en permanence. Donc dans cette, voilà, dans cette conférence, j'essaye vraiment d'établir voilà, quels sont ces problèmes et de proposer des solutions pour essayer d'améliorer cette place-là.
Alors on rappelle, cette conférence, elle a lieu quel jour, à quelle heure ? Enfin, évidemment.
Alors cette conférence, elle a lieu le vendredi 21 mars à 16h20 au lycée Choiseul.
Au lycée Choiseul. Et alors, est-ce qu'on peut connaître votre sujet de thèse ?
Alors mon sujet de thèse, c'est le personnage narrateur dans les groupes de métal à chanteuse. Voilà, parce que la chanteuse raconte une histoire. Et donc la question que je me pose, c'est qui raconte ?
Et d'ailleurs, il y a sûrement des choses à dire sur les voix aussi, les effets de voix.
Tout à fait. Bah, le métal, c'est connu notamment pour la pluralité des techniques vocales qui sont utilisées par les chanteuses. Évidemment, c'est dépendant des sous-genres du métal. Mais en fait, toutes ces techniques, elles sont liées du point de vue de la perception de l'auditeur au genre. C'est-à-dire que quand on entend une femme qui scream pour la première fois, souvent les gens, ils ont une réaction, quelle qu'elle soit, mais il y a une réaction qui est provoquée, et qui est une réaction provoquée par rapport au genre. Et dans les paroles de métal, en fonction du sujet qui est abordé, on n'a pas la même perception, en fonction de si c'est un homme qui raconte une histoire ou une femme. Donc voilà, donc tout rentre en jeu, en fait. Il y a une perception très sociale, voilà, on est vraiment dans les études de genre, mais il y a aussi une perception de la musique, de la façon dont la voix va avec la musique. Il y a par exemple le groupe Nightwish qui n'a eu que des chanteuses, qui est un groupe de métal symphonique. Et le compositeur, qui est le claviériste, traite en fait vraiment la chanteuse comme un instrument. C'est-à-dire que, indépendamment de son humanité, il lui enlève dans son discours toute possible interprétation voilà, de ce qu'elle fait, elle, en tant qu'artiste. Et donc, c'est très intéressant voilà, d'étudier ce genre de choses pour savoir comment les femmes racontent.
Est-ce qu'il y a des femmes musiciennes ou chanteuses de métal en France ?
Alors oui, déjà il y a moi. Par exemple, mon beau-frère est bassiste dans un groupe qui s'appelle Oniria, qui est un groupe dans le sud-est de la France, qui a une chanteuse notamment, qui est capable d'ailleurs aussi bien de chanter du symphonique que de faire du scream. Il y a une communauté quand même de chanteuses qui sont d'ailleurs parfois des doctorantes en métal. C'est-à-dire que je ne suis pas la seule chanteuse de métal à avoir fait dans les études supérieures des thèses sur ce thème-là. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on ressent qu'il n'y en a pas beaucoup, mais elles essayent de créer une communauté.
Et cette communauté, elle existe en ligne, elle est internationale
Alors, il y a des forums en ligne. Généralement, dans le métal, on n'est pas tellement dans quelque chose de national, on l'est plus dans quelque chose de global, parce que la langue principale du métal, c'est l'anglais. Voilà. On est plutôt dans des communautés, des forums, des chaînes YouTube qui vont être anglophones. Voilà. Mais on a de plus en plus de mal à créer une communauté de par le fait que, voilà, en anglais, on parle pour ce qui est des groupes de métal à chanteuses, on dit female fronted band, c'est-à-dire un groupe où c'est la femme qui est devant. Mais sauf que c'est pas un genre musical, ça. C'est pas parce que c'est une femme qui est chanteuse que le genre musical est différent de quand c'est un homme qui est le chanteur. Ouais. Et du coup, on a un peu du mal à essayer de trouver la limite entre ben, ne pas se mettre là en tant que femme dans cette catégorie qui ne nous définit pas, et à la fois trouver une solidarité, une communauté. De toute façon, les communautés de femmes, c'est toujours difficile à trouver, hein, historiquement. C'est l'entraide entre les femmes, c'est quelque chose qui existe, qui est formidable, mais ce n'est pas toujours quelque chose de très connu ou popularisé.
Et donc cette idée de coller à une catégorie aussi, il y a aussi tout l'aspect commercial peut-être, de dire bah, si je m'en extrais, finalement comment je suis définie par les maisons de disques, par les disquaires, si ça existe encore. Donc,
Alors il y a des études qui ont été faites sur le sujet justement, sur l'effet qu'a la tokenisation des femmes dans le fait de signer ou non un contrat. Et ce qu'on remarque effectivement, c'est qu'on les remarque plus, on les voit plus. Mais au niveau de la signature avec des records, des maisons de disques, le chiffre n'est pas plus élevé quand il s'agit de femmes chanteuses que d'hommes chanteurs. C'est-à-dire qu'on a la même proportion, mais on les voit plus simplement parce que, ben, y en a peu et c'est l'effet que ça a.
Je crois que Jérôme Boissel réagit à côté de vous. Peut-être que vous écoutez aussi cette musique.
Non, mais le sujet est super intéressant. Il est d'actualité et encore plus d'actualité quand on voit que, alors métal ou pas métal, j'en sais rien, mais que le groupe Linkin Park a remplacé son chanteur historique, enfin remplacé, a perdu son chanteur historique et l'a remplacé par une femme. Donc ça peut être intéressant en termes d'études pour savoir quelles ont été les réactions des fans. Et puis en termes de tokenisation, on pense aussi à sexualisation de l'individu. Je pense à la chanteuse de Garbage à l'époque où finalement, oui, il y avait une voix, oui, c'était elle qui était sur le devant de la scène, mais voilà, elle était quand même très sexualisée. Et aujourd'hui, on a un peu sa petite fillotte, c'est Taylor Momsen, où très clairement, on est sur l'esthétique de la chanteuse. Et j'imagine que ça peut même attirer des fans au-delà du talent, parce qu'elle a une sacrée voix, au-delà du style musical. Mais en fait, c'est son corps qui va parler, c'est son expression. Donc je trouve que le sujet est vraiment pertinent en 2025 sur la place qu'occupe la femme dans la société, quoi.
Alors j'en profite pour dire que la personne qui est maintenant chanteur ou chanteuse de Linkin Park est quelqu'un qui se définit comme non-binaire. Donc on est dans quelqu'un qui est perçu au niveau des codes comme une femme, même si cette personne justement essaye de troubler ces codes-là. Quand on regarde par exemple le clip Two-Faced, on voit que c'est une personne qui porte un costume mais qui a des cheveux longs blonds avec un visage avec des connotations féminines. Mais voilà, donc on est vraiment dans effectivement des codes du genre qu'on essaye de troubler et une définition du genre qui se redéfinit. Les gens qui, comme on dit en anglais, do gender, ils font le genre à leur propre façon. Et c'est vrai que justement, c'est pour ça que, entre autres, que j'ai lié ces milieux du jeu vidéo et du métal. C'est parce qu'effectivement, il y a cette sexualisation, hypersexualisation qu'on retrouve dans les deux milieux et qui sont typiques de la représentation des femmes dans les milieux homosociaux masculins.
Merci beaucoup à vous. Alors là, je vous vois regarder le programme de ces salons de Choiseul. Alors peut-être voulez-vous nous donner à voir quelles autres conférences on peut aller écouter sur ces deux jours. Donc évidemment, celle de nos deux invités, les vôtres aussi. Et du coup, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre.
Alors là, il y a vraiment plein de choix possibles, mais je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tous les deux à l'instant.
Mais rebondissez.
En parlant de la question du genre et de l'actualité, et si nos éditeurs ont envie justement de poursuivre cette réflexion en réfléchissant sur la géopolitique, je pense que par exemple la conférence de Tallinn Termination qui a lieu jeudi à 13h15 sur l'histoire du grand jeu, même si elle est située historiquement au 19e, elle poursuivra jusqu'au 21e et la question du genre, pourquoi je la relie à ça, par rapport à ce qui se passe du côté de l'outre-Atlantique, c'est quand même assez troublant, cette redéfinition du genre là, qui a été faite récemment par la nouvelle administration, Trump. Et effectivement, peut-être que cette situation géopolitique intéressera nos auditeurs. Ils auront plusieurs occasions de parler de géopolitique, puisqu'il y aura également le jeudi à 11h20, Thibaut Fouillé, qui est donc un chercheur de Lyon, en fait, hein, de l'Université de Lyon, qui viendra parler de l'évolution de l'entraînement des soldats à l'aide de Wargames. Donc là, on a aussi une préoccupation géopolitique qui est très forte. Alors, j'ai quand même glissé du genre à la géopolitique progressivement, mais puisqu'on élargit les thèmes, voilà, ça fait partie. Bon, il n'y a pas que l'histoire à la géopolitique, mais historiquement, Stéphane Genet, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le créateur du podcast Taki en histoire, Stéphane Genet, qui est créateur donc, des salons de Choiseul, au départ, c'était des salons qui se voulaient historiques. Nous, on a souhaité, à partir de 2023, l'élargir à... Bon, ça avait déjà été fait lors de la précédente édition, en 2018, sur l'animal. Nous, on a souhaité l'élargir à d'autres thèmes. Mais c'est vrai que le thème historique est encore largement présent. Et aussi le thème de l'histoire et du sport. Alors, tu as évoqué tout à l'heure le sport, et finalement, vous l'avez l'un et l'autre, Juliette et Jérôme, évoqué. Mais c'est aussi un thème qui sera présent, puisque les Jeux Olympiques, on va dire dans la droite ligne de l'année précédente, seront présents déjà lors de la conférence inaugurale, puisqu'on va travailler sur les Jeux Paralympiques, et que ça sera Marion Chotin, qui est professeure à l'ENS de Lyon, qui viendra faire l'inauguration des salons de Choiseul. Donc, c'est un moment fort, en fait, qu'on a voulu dans l'équipe. On a voulu centrer ce moment, justement, sur cette idée de collectif. Et donc, on sera à la mairie de Tours. Et la conférence sera sur les Jeux paralympiques, du modèle caritatif du handicap aux études critiques du handicap. Donc, peut-être que ça fera aussi, quelque part, la synthèse avec beaucoup d'autres choses qui seront vues sur le sport et les Jeux olympiques, qui sont très présents à plein de reprises, aussi bien sur l'histoire des JO. On a deux conférences, le jeudi et le vendredi, dessus. Michaël Attali, le jeudi matin, à 10h20, qui vient parler de la transformation du programme des JO. Et également, le vendredi après-midi, toute fin d'après-midi, enfin, à la même heure que Juliette, en fait, on va avoir l'Olympisme, une histoire du monde, et ça sera Patrick Umauer, qui est à la présidence de la CASDEN, et qui est notre partenaire, un de nos partenaires importants pour cette édition, qui viendra nous parler de l'histoire de l'Olympisme.
Alors sur le genre, il y a aussi une personne qui interviendra, qui sa conférence s'intitule « Fille, garçon, réellement libre de jouer en ludothèque ». Donc c'est une ludothécaire. Donc il y a, en fait, c'est je crois que c'est son mémoire de fin d'études qui porte là-dessus. Il va y avoir aussi beaucoup de choses autour de la littérature. Notamment, on va avoir sur le slam, un slam de poésie. On va avoir également...
Les jeux de mots littéraires.
C'est ça, ouais. Alors, quelque chose qui s'en rapproche, bon, qui n'est pas tout à fait la littérature, mais il y aura aussi sur le jeu d'acteur, avec M. Cano Lopez.
Duplessis.
Voilà, Duplessis.
Alors, ouais. Donc, qui est à La Riche. Et donc, José Manuel Cano Lopez, qui est donc acteur de théâtre et dirigeant de la compagnie Cano Lopez, viendra parler de son métier d'acteur autour du jeu d'acteur. Il y a aussi le secteur des jeux vidéo, par exemple, alors à plusieurs reprises, on a un des spécialistes du jeu vidéo en histoire, qui est William Brou, qui est formateur dans l'Académie de Clermont également, et qui viendra nous parler à deux moments du rôle de l'histoire des jeux vidéo, dans le cours d'histoire, comment peut-on faire un cours d'histoire avec des jeux vidéo. Et plus particulièrement, il viendra également le vendredi nous parler du jeu vidéo Assassin's Creed, qui est quand même un jeu vidéo évidemment très connu, et de la manière de l'utiliser avec des élèves. On aura aussi un cluster local de jeux vidéo qui s'appelle Pixel Players, qui est basé à la cité MAM, et qui viendra montrer le rôle de l'interactivité des entreprises de jeux vidéo et leur impact, aussi bien en économie, que dans le développement de l'intérêt culturel pour les jeux vidéo dans le public.
On aura évidemment, bien sûr, tout ce qui peut être jeu et ce que ça peut apporter également, qu'est-ce que ça apporte de jouer. Donc on va avoir par exemple une conférence sur « Petit homme deviendra grand grâce au jeu ». On aura également une philosophe psychologue qui va intervenir sur qu'est-ce qu'apporte le jeu dans le développement de l'enfant, enfin pas que de l'enfant d'ailleurs, des hommes, en fait, des femmes, de manière générale. Donc il y a aussi cet aspect-là, et puis beaucoup de choses aussi sur qu'est-ce que c'est que le jeu. Donc vraiment, d'ailleurs c'est une des premières conférences, puisque c'est sur le jeu, donc on a une conférence qui s'appelle « Qu'est-ce que le jeu aujourd'hui ?» entre sciences humaines et récupération idéologique. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi sur les métiers autour du jeu. Qu'est-ce que c'est qu'un ludothèque, qu'est-ce que c'est qu'être ludothécaire, et puis qu'est-ce qu'on trouve comme métier dans le monde du jeu. Donc c'est très très varié, puisqu'on a aussi une personne qui nous viendra nous présenter le patrimoine des jeux de société. Donc il y a un fonds qui existe à Paris, qui est le plus grand fonds qui existe en France de jeux, qui est uniquement de jeux de société.
Et on rejoint, c'est vrai, là, le monde de la recherche également, quoi.
C'est ça, ouais. Oui, puisqu'elle est chercheuse, en fait. Voilà.
Annick Zirou.
Voilà. Et on a aussi quelque chose qui va intéresser évidemment nos élèves le jeu des institutions. Donc avec Jacqueline Corot, qui est membre du Conseil constitutionnel.
Et ancienne ministre.
Voilà.
Alors comment vous allez garder trace peut-être de cette journée? Est-ce qu'il y a des élèves qui sont mis à contribution pour faire des interviews, des chercheurs, chercheuses, intervenantes et intervenants?
Alors, pour les interviews, moi j'ai une classe qui a travaillé sur les JO en jeu citoyen, en éducation morale et civique au premier semestre. Donc oui, là ça normalement, je vais leur demander d'aller interviewer quelques conférenciers. Et puis d'une manière générale, on a la possibilité effectivement de le faire. Ils peuvent aller les interviewer dans le cadre de travaux qui sont faits par les enseignants. Et puisque vous parlez de traces, on a désormais des archives des salons de Choiseul, puisqu'on a une chaîne YouTube qui existe déjà pour nos précédents salons. Et on va l'enrichir si je ne me trompe pas, environ une quinzaine de vidéos, puisque ça doit correspondre à peu près à dans notre plus grande salle, on aura une caméra qui va filmer intégralement toutes ces conférences et qu'on montrera par la suite. Et puis surtout, on va enregistrer de manière sonore, c'est-à-dire créer des podcasts, des intervenants avec leur accord, bien entendu.
Et ces podcasts, ils seront à écouter où?
Sur la chaîne YouTube des Salons de Choiseul. Donc c'est YouTube Salons de Choiseul. Le lien est disponible de toute façon sur notre site internet.
Alors je reviens sur le thème que vous avez choisi pour cette édition. Donc on voit bien la variété des interventions qui seront proposées. Alors qu'est-ce qui préside au choix du thème d'une édition? Peut-être un pugilat en salle des profs, je ne sais pas. Mais comment ça se...
Comment... Il n'y a pas de pugilat, d'autant plus qu'en fait on a une association. Donc,
c'est pas forcément lié, pardon.
Voilà, c'est ça. Donc nous sommes quatre personnes.
Quatre principaux, après il y a quelques associés. Alors le thème n'est pas encore défini, le prochain thème. On va le faire là, dans la quinzaine qui nous reste. Oui. Et on l'annonce de manière traditionnelle. Alors ça a été toujours fait, il y a toujours des attendus dans les salons de Choiseul à respecter, l'inauguration, etc. etc. L'annonce du thème se fait au moment de l'inauguration, donc on l'annoncera mercredi 19 au soir à l'Hôtel de Ville, dans la grande salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, où, bien entendu, vous êtes tous conviés.
Voilà, et donc ce sera une discussion au sein de l'association, c'est surtout nous qui allons décider du thème. Après, le thème, l'exigence, c'est qu'on puisse le décliner dans plusieurs secteurs, comme je disais tout à l'heure, que ce soit historique, économique, philosophique, littéraire. Il faut que ça puisse se décliner, que ce ne soit pas trop, trop spécialisé pour essayer d'avoir le maximum de public.
Bon, alors, on imagine que la contrainte, ce n'est déjà pas quelque chose qui a déjà été fait, évidemment. Et puis, quelque chose qui ne serait pas, clivant, peut-être?
Alors c'est vrai que cette question-là, c'est toujours... Alors c'est là, pour le coup, c'est l'objet de débats entre nous assez... on part dans pas mal de directions et assez approfondies. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, on essaie de trouver quand même des thèmes qui sont consensuels et qui permettent d'aborder de larges pans et de toucher de larges champs disciplinaires.
Alors nous sommes quand même au sein d'un lycée. Donc on essaie de pas aller sur des choses trop clivantes. Ça reste dans un, dans un environnement calme et serein.
Voilà, on a nos partenaires, notamment la région Centre-Val de Loire, qui nous fixe un peu aussi des cadres dans les demandes de subventions que nous faisons.
Ceci dit, on peut avoir, même sur un sujet qui peut paraître plaire à tout le monde, on peut très bien avoir des sujets un peu clivants. Sur le végétal, par exemple, quand on a eu cette édition sur le végétal, on pouvait, sur l'agriculture, avoir, par exemple, des productivistes et puis des gens qui vont être quelque chose de raisonné.
On a eu des petits soucis lors de la dernière édition.
Voilà. Donc, sur un sujet tel que le végétal, on peut trouver des choses clivantes.
Disons que le mood de l'événement, c'est pas ça en fait, c'est pas l'invective, c'est l'idée, c'est vraiment d'être là pour écouter, pour apprendre, pour débattre d'idées éventuellement, mais clairement pas d'être sur quelque chose qui peut ressembler aux réseaux sociaux, où l'idée c'est vraiment d'être dans l'invective et la colère.
Ah tout à fait, on est même dans les anti-réseaux sociaux, là non, l'idée c'est plutôt effectivement la communication justement scientifique, la réalité scientifique contre les fake news, justement, puisque là on fait appel à nos chercheurs, dont deux éminents sont présents. Et puis l'idée, c'est effectivement que le public y soit associé, alors par le biais d'une partie questions-réponses, c'est-à-dire que ce sont des conférences qui sont alignées sur une durée environ d'une quarantaine de minutes, 40-45 minutes, avec toujours une petite durée offerte au public pour pour des interventions et effectivement des échanges.
Puis le but aussi, c'est que faire un apport auprès des élèves, un apport culturel, de raisonnement. Donc on n'est pas là pour être dans la polémique avec eux. Nous, c'est vraiment qu'ils puissent découvrir aussi des choses auxquelles ils n'ont pas pensé, comme un peu tout à chacun, mais c'est quand même ça notre objectif. Donc je pense que les polémiques, ils peuvent en avoir entre eux, ils peuvent en avoir par les réseaux sociaux, nous, ce n'est pas notre objectif.
Voilà, je promets de ne pas m'énerver en parlant de la situation des femmes.
Bien, il est déjà 11h50, chers auditeurs et chers invités. Peut-être faire un tour de table sur votre mot de la fin. Allez, qu'est-ce que vous aimeriez dire toutes et tous à nos auditeurs? Alors, évidemment, pour les encourager à venir à ces salons, mais peut-être que vous aimeriez les lancer sur une recommandation, quelle qu'elle soit, de contenu à aller voir, écouter ou lire. Donc voilà, je vous laisse libre de ces dernières minutes d'émission.
Je n'ose même pas dire les femmes d'abord.
Non, mais moi, j'aurais dit simplement lisez, venez. Apprenez des trucs, c'est génial. Plus on a d'informations, plus on arrive à prendre les bonnes décisions, celles qui nous paraissent les bonnes en tout cas. Et pour ce qui est de ma conférence en particulier, voilà, améliorer la condition de la femme, c'est prouvé que ça améliore la condition de tout le monde. Donc si vous voulez une meilleure vie, venez vous renseigner, c'est top.
Alors moi j'ai envie de dire alors c'est plus pour le public au-delà des élèves. Hein. Toutes les personnes à qui j'ai recommandé ces conférences ont vraiment énormément apprécié hein, les années précédentes. Je crois qu'en fait le public ne se rend pas compte de la qualité des intervenants tant qu'ils n'ont pas fréquenté ces conférences. Et c'est vrai que là j'insiste sur le fait qu'il y a vraiment une très très belle qualité, hein, quelle que soit la conférence. Donc j'ai envie de dire venez nombreux.
Jérôme, tu veux... Je te laisse la parole.
Oui, merci. La patate chaude. alors, conseil de lecture, parce que j'avais un peu préparé l'émission, et ça revient au titre de mon intervention, le jeu, c'est du sérieux. En fait, il y a un philosophe néerlandais qui s'appelle Huizinga, qui a écrit Homo Ludens, et qui, en gros, dit que le jeu, c'est le propre de l'homme, et c'est ce qui nous différencie des animaux, parce que nous, au moins, on a conscience de jouer. C'est pas simplement se faire les dents et trouver sa place dans la famille, dans la tribu. Donc, Huizinga, je le conseille. Et puis si on creuse un peu dans le jeu, Machiavel, selon certains mathématiciens, serait peut-être l'ancêtre de la théorie des jeux, qui est reprise également en stratégie, donc pour les BTS de Choiseul et également les ceux qui sont en terminale STMG, ça peut être intéressant de relire ou lire Machiavel.
Même en spé maths ou spé éco, ça peut être intéressant.
Exactement, ouais. Et puis également, là c'est peut-être un clin d'œil à nos politiques d'aujourd'hui, mais Gramsci, qui a beaucoup été cité pendant les élections, je ne sais plus quelle année, si c'était...
c'était il y a 2 ans, non ?
Ouais, ou c'était peut-être même avant, parce qu'après il a changé de philosophe, Macron, donc c'est peut-être la première fois. Gramsci a écrit sur la différence entre le football et la scopa. Donc c'est assez rigolo. Alors je ne vais pas vous conseiller de relire tous les cahiers de Gramsci, les cahiers de prison, mais voilà, le jeu c'est vraiment du sérieux, et pour approfondir tout ça, vous pouvez venir nous écouter n'importe quelle conférence. Je pense qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes, hein, comme on l'a dit, de la philo aux langues, au marketing, à la vidéo. Alors évidemment, le marketing, c'est peut-être ce qu'il y a de moins de sérieux, mais voilà, venez profiter, c'est vraiment de belles conférences, un bel événement, et je remercie vraiment les professeurs et les étudiants d'organiser ça.
C'est gentil. Bon, moi, si je dois me dire un mot de la fin, c'est pareil, c'est un peu le même sens. On a des domaines extrêmement variés, des conférences auxquelles peut-être vous attendrez pas et vous découvrirez plein de choses. Sur le domaine du sport, il y en a quand même pas mal. Je regarde mon petit programme que j'ai à noter. Mais effectivement, il y a au moins 5-6 conférences du sport, dont un grand monsieur du monde sportif qui est professeur émérite, qui s'appelle Didier Delinière et qui en fait est une référence dans le monde de l'EPS. C'est-à-dire qu'on a voulu tout articuler aussi en rapport avec l'enseignement. Les salons de Choiseul, c'est quand même dans un lycée. Donc l'idée, effectivement, je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire, Jérôme, sur le jeu sérieux. Apprendre par le jeu, c'est aussi super bien à faire. Je ne dis pas que ça doit être systématique, mais ça donne aux élèves l'occasion de s'impliquer dans leurs apprentissages. Et moi, à titre personnel, je suis convaincu par ça depuis des années. Donc, j'ai été ravi de pouvoir organiser et de participer à l'élaboration d'un tel événement parce que, effectivement, le jeu, c'est un moyen formidable d'acquérir, d'être vraiment kinesthésique dans ses apprentissages. Et voilà, je trouve que c'est du coup formidable si l'ensemble un maximum de gens peuvent venir. Voilà.
Bien, merci à vous quatre d'être venus nous présenter cette 8e édition des Salons de Choiseul au lycée Choiseul à Tours. Donc, ça se tient les 20 et 21 mars au lycée, plus le 19, rendez-vous à la mairie de Tours. Merci à Béatrice Collin, donc co-organisatrice des Salons de Choiseul, à Juliette Garcin, qui est professeure d'anglais au lycée Choiseul et qui proposera donc une conférence sur métal et jeux vidéo « Où sont les femmes ?». Jérôme Boissel, docteur en sciences de gestion, spécialiste en marketing et enseignant-chercheur à l'ESC Clément Business School, et qui proposera une conférence sur en marketing, le jeu c'est du sérieux. Et enfin, merci à monsieur Gagnepin, professeur d'histoire-géographie. Voilà, donc vous êtes sur la section binationale, on le rappelle, hein, c'est le double bac français et italien, et vous êtes donc le président des Salons de Choiseul. On va se quitter, auditeurs, auditrices, eh bien, en écoutant Oniria. Et vous pourrez retrouver cette émission podcast sur notre site radiocampustour.com et le réécouter aujourd'hui même à 17h. Bonne journée à toutes et à tous.
Merci.